Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir dans le bunker de nos confinements pour une nouvelle suggestion de film ou de série touchant au thème du podcast, Elie Tenenbaum. Bonjour Elie.
Bonjour Alexandre.
Alors, c'est pas votre premier passage dans le podcast, donc je pense que les auditeurs commencent à bien vous connaître. Vous êtes chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, où vous coordonnez le laboratoire de recherche sur la défense. Et on a donc le plaisir de vous avoir au téléphone pour parler d'un film qui recoupe d'ailleurs, dans une certaine mesure, vos thèmes de recherche, puisque je rappelle que vous avez travaillé sur l'histoire de la guerre irrégulière au XXe siècle, recherches qui sont d'ailleurs devenues un livre, Partisans et Centurions, auquel on avait consacré un des premiers épisodes du podcast. Alors, ce film que vous nous conseillez et que vous soulignez à notre attention, c'est La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, film italien, enfin, algéro-italien, réalisé en tout cas par un réalisateur italien, et ce qui n'était pas tout à fait anodin, on va en reparler, sorti en 1966, qui raconte les événements et la lutte, disons, entre le FLN, le Front de Libération Nationale, et l'armée française à Alger au milieu des années 50. Alors, c'est évidemment un film engagé qui montre toute la violence de la lutte anticoloniale et de la répression française au sein de la ville d'Alger, qui s'inscrit dans un contexte politique précis, mais je vais vous laisser en parler, et je vais vous laisser surtout nous dire pourquoi il mérite donc, à votre avis, un visionnage pendant ces longues journées de confinement qui nous occupent. Je signale au passage qu'il est disponible à la demande sur la très bonne plateforme La Cinéthèque.
Alors, pourquoi revoir La bataille d'Alger? Je dirais parce que c'est un film vigogne qui est à la fois un document témoin, un document de quasi-propagande ou pensé comme tel par le jeune État FLN, puisque le film a été réalisé en 1965 et 1966, à un moment où l'Algérie voulait se poser en mec de la guerre révolutionnaire à travers le monde. Hein. C'est peu de temps après que Che Guevara vienne à Alger faire son discours en 1963 et un moment où le prestige du FLN est très important. Et l'Algérie voulait avoir un grand film de guérilla pour montrer la victoire qu'elle estimait avoir remportée sur la France. Donc c'est un document de propagande qui, de ce point de vue-là, a un intérêt historiographique, mais c'est aussi un grand film inspiré par le néo-réalisme italien et qui a cette distance justement par rapport au film de propagande classique, puisque il y a un certain nombre de points de vue qui sont adoptés par le cinéaste italien, qui n'est pas un cinéaste algérien entièrement à la solde du régime, notamment la manière dont ils font le portrait de la contre-insurrection française, de la guerre contre-révolutionnaire menée par la France, à travers le portrait d'un officier français, ancien d'Indochine, ancien résistant, déporté, qui est une figure un petit peu mélangée de différentes personnalités historiques. On pense à Massu, on pense à Bijard.
Oui, on va rappeler que tout ça est évidemment une transposition de choses qui sont vraiment passées, c'est-à-dire c'est l'intervention des parachutistes français à Alger qui mène, disons, la contre-insurrection en milieu urbain, qui est évidemment particulièrement difficile. Et tout le film tourne autour de ça, tourne autour du fait de cette espèce de dédale qu'est la Casbah d'Alger, et toutes les potentialités qu'ont les révoltés algériens à se cacher au milieu de la population et dans la Casbah, et disons les manières de plus en plus brutales et de plus en plus disons explosives au sens propre que l'armée française va mener, adopter. Quoi.
Ouais, absolument. Maintenant, c'est pas uniquement justement ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait être uniquement un film à charge contre le colonialisme français. C'est pas le cas. C'est vraiment un film où le réalisateur s'intéresse à la spirale de la violence, du terrorisme, du contre-terrorisme. Et d'ailleurs, initialement, Gillo Pontecorvo et son scénariste avaient prévu de faire un film sur les parachutistes français. Donc il a retourné un petit peu la perspective, parce qu'il y a eu un intérêt de la part de Yassef Saadi, qui est un ancien du FLN, pour produire un film sur les héros du FLN, mais quand même, il reste quelque chose du premier projet qui s'appelait Para, et donc on a cette espèce de face-à-face, et donc on voit les attentats menés par le FLN à partir de l'été 1956 à Alger, jusqu'à effectivement le transfert de pouvoir en janvier 1957 avec les parachutistes de la 10e division parachutiste qui prennent le contrôle et les missions de police à Alger même, et ensuite toute la menée du contre-terrorisme avec l'importance du renseignement, évidemment la question de la torture qui est montrée pour la première fois au cinéma à cette époque-là, et sans dramaturgie excessive d'une certaine manière. Il y a ce côté néo-réaliste qui en fait un portrait un petit peu clinique justement. Et donc un film qui est intéressant, et de fait,
effectivement, c'est un film qui est très violent, enfin qui est très violent. Alors effectivement, vous le dites, c'est le néo-réalisme italien, c'est très daté. Enfin, c'est moi en le revoyant, je me suis dit c'est vraiment un film des années 60, ça apparaît tout de suite. Mais parce que il y a la post-synchronisation, enfin les dialogues qui sont faits en studio après. Enfin bon, on peut pas se tromper sur quand ce film est fait, mais en fait, la dramaturgie interne, effectivement, vous le dites très bien, c'est la spirale de la violence. C'est-à-dire, tout le monde est méchant et tout le monde est... Enfin, c'est vraiment les événements qui les uns s'entraînent les autres et la violence qui croît insensiblement. Et effectivement, ça passe pas du tout sous silence. La très grande violence et le côté complètement indiscriminé aussi des attentats du FLN pendant toute la période, quoi.
Ce qui a été reproché au réalisateur, d'ailleurs, d'avoir montré notamment l'attentat du Milbar au mois d'août 1956, qui a coûté la vie à un certain nombre de Français et qui a notamment fait de nombreux blessés chez les enfants qui étaient aux alentours. Et Pontecorvo a tenu à le montrer et à filmer des enfants victimes de la bombe. De manière assez crue, et la gauche et l'extrême gauche et une partie des anciens pro-FLN ont reproché au réalisateur d'avoir montré de manière trop crue cette violence révolutionnaire.
Oui, mais donc c'est un film qui du coup a vraiment permet de détailler vraiment dans une certaine mesure des dispositifs à la fois d'insurrection, de résistance, d'échappatoire à chaque fois, puisque ça montre très bien en fait comment le FLN devient insaisissable assez rapidement dès qu'on pénètre dans les quartiers arabes d'Alger. Mais du coup c'est un film qui a aussi eu une postérité. On a beaucoup dit qu'il avait servi un peu de document et parfois de document de travail pour un certain nombre d'armées. Notamment, on a beaucoup dit que au début des années 2000, il avait été projeté, utilisé par l'armée américaine pour anticiper ce qui pouvait se passer en Irak.
Oui, alors effectivement, il y a eu un peu une forme de fantasme autour de l'influence supposée de ce film à partir de 2003, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être reprojeté au Festival de Cannes en 2004, parce que on estimait que le film disait quelque chose de notre époque, du conflit irakien, de la guerre contre le terrorisme post 2001. Il se trouve effectivement que la direction des opérations spéciales du Pentagone, en août 2003, donc trois mois après la chute de Bagdad, a organisé une projection de ce film au Pentagone avec une invitation qui disait finalement venez voir ce film pour regarder comment on lutte contre le terrorisme, mais comment comment on peut aussi perdre une guerre contre le terrorisme avec cette phrase très prophétique d'une certaine manière sur le tract d'invitation, comment obtenir un succès tactique et un échec stratégique. Donc il s'agit pas du tout, je pense, dans l'esprit des Américains de montrer le film en disant regardez ce que font les Français, il faut qu'on fasse exactement la même chose.
Oui, parce qu'on va préciser que c'est évidemment un film quand même malgré tout anticolonialiste et qui montre enfin globalement l'armée française qui fait sauter la moitié de la Casbah, qui torture à tour de bras et qui finit quand même par échouer puisque le film se termine sur les révoltes du début des années 60 jusqu'à l'indépendance.
Oui, absolument. On peut pas dire que le film soit une ode à l'efficacité de l'armée française et en même temps. Sans vouloir complètement divulgâcher la fin, mais je pense que l'histoire et ceux qui s'intéressent à l'histoire la connaissent déjà. Évidemment, le réseau FLN d'Alger va être pour le coup totalement démantelé par les parachutistes français et ses principaux acteurs soit éliminés physiquement, soit arrêtés. Et de ce point de vue-là, voilà, on est effectivement sur succès tactique, échec stratégique, et le film le montre bien et donne à réfléchir quand même sur la nature de la guerre régulière.
Ouais, alors, et on peut préciser aussi, il y a toute la dimension tactique et stratégique, il y a aussi beaucoup de choses qui, même politiquement, sont très intéressantes. Enfin, par exemple, les débuts du film, on voit par exemple que tout ça commence notamment par une grande entreprise de moralisation de la Casbah. On voit que le FLN, en fait, la première étape, c'est pour le FLN, c'est de se structurer, de se créer des refuges et des refuges. Donc ça implique de vider toute la Casbah, de tout l'alcool, de toute la drogue, de toute la prostitution, et que c'est la première étape qui va permettre de fournir une base solide à l'insurrection, par exemple.
Absolument, et là on voit un point central qui est que une insurrection n'est pas uniquement un mouvement armé, mais un mouvement politique qui cherche à instaurer un ordre politique nouveau, à créer finalement un État clandestin, et on le voit à travers effectivement des actions d'intimidation contre la pègre, contre l'alcool, le tabac, la prostitution, mais aussi par exemple à travers la scène du mariage. Il y a une scène du mariage qui est intéressante où on voit que l'État FLN est déjà présent alors même que il est en train de lutter pour son indépendance.
Alors la scène du mariage, on va juste préciser que c'est un mariage qui se fait clandestinement, alors qu'il n'y a rien de clandestin dans la chose. Mais c'est une scène où on montre de manière très claire qu'on veut se marier hors des institutions françaises, c'est une première étape de rejet.
Absolument. Et ça, c'est quelque chose de très sain pour le coup et de très juste qui montre cette dimension politique des insurrections.
Très bien. Alors on va rappeler, donc le film, c'est La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, film de 1966 qui a d'ailleurs été Lion d'or à la Mostra de Venise, soit dit en passant, a pas rempli de joie la délégation française qui, je crois, est partie de la Mostra cette année-là. Donc film qui se laisse revoir à plein d'égards différents et à plein de niveaux différents, qui est donc disponible sur à la demande, notamment sur la plateforme La Cinéthèque. Alors on aurait pu parler de bien d'autres choses, faire bien d'autres parallèles aussi avec notamment les Black Panthers, avec disons la lutte pour les Palestiniens. Mais on n'a pas de temps. Ce sont des parallèles qui sont, je précise, qui sont dressés notamment dans un article que vous avez consacré à la bataille d'Alger dans le numéro d'Inflexion sur guerre et cinéma qui est paru l'an dernier, dont on avait déjà parlé dans le podcast. Merci beaucoup, Elie Tenenbaum.
Merci, Alexandre.
Et bonne journée à tous et à demain.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.